Morais. Live.
En vacances.
Live. Nous sommes profondément désolés.
Radio X.
C'est les vacances, c'est tranquille sur les routes, les amis. Il n'y a pas vraiment de problème à signaler. Sur l'ensemble du réseau routier, grande région de Québec, que ce soit sur la rive nord et la rive sud, tout se passe très bien. Et aujourd'hui, chez Pharmaprix, ouvrez votre appli, magasinez, scannez et obtenez 20 fois les points ou 25 fois les points avec une carte PC Finance, modalité dans l'appli. 7h26 dans Montréal-Live en vacances. Et cette semaine, t'es arrivé un peu un genre de, je vais appeler ça un coup de théâtre. Là, ou en tout cas, Donald Trump a fait un Donald. Là. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une menace de nouveaux tarifs à hauteur de 50% sur un paquet d'affaires, dont les meubles, entre autres, là, qui, l'industrie du meuble. Et beaucoup, beaucoup d'entreprises au Québec, en fait, qui voient cette menace-là. Encore une fois, avec une certaine inquiétude, là, parce que c'est au niveau des exportations, au niveau du marché. Même si, de mon côté, Max et Camille, je pense que ça reste une menace de négociation. Là. Mais je voulais quand même en parler avec les gens qui sont impliqués directement, qui vivent ces menaces-là dans le quotidien. C'est les entreprises indépendantes. François Vincent, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Merci d'être là ce matin.
Bonjour, merci de l'invitation.
Donc, c'est ça, c'est arrivé un peu comme par surprise, un peu comme un Donald a fait un Donald cette semaine avec ses nouveaux tarifs de 50%. À quel point ça peut affecter les entreprises indépendantes du Québec en se disant, ben c'est peut-être encore une fois juste une menace, là?
Oui, mais même si c'est une menace, ça reste l'instabilité qui est créée.
Oui.
Ça reste un moment qu'on dit, OK, c'est bon, on vient de se remettre du nouveau paradigme, ça va bien, on va prévoir des investissements, puis là, paf! Il y a des nouvelles taxes qui s'en viennent, des nouveaux tarifs pour les États-Unis. Ce qui fait mal dans ce cas-là, c'est que c'est hyper ciblé puis ça va toucher beaucoup de petites et moyennes entreprises. Tu sais, j'en ai entendu, puis c'était à la hauteur de 50%. J'en ai entendu dire, oh, c'est juste 5%, etc. Mais j'ai vu une récente étude de Desjardins qui sont sorties le 21 juillet qui disent que c'est plus à la hauteur de 10%. Un professeur à 10% des exportations, un professeur de l'Université de Calgary, je pense, qui est évalué à 10%. Maintenant, une petite business, une petite entreprise, admettons, qui est dans les produits de beauté, dans le meuble, dans le jouet, puis qui s'adonne à avoir une partie de ses échanges avec les États-Unis, c'est dramatique, là.
Oui.
C'est complètement dramatique. Dans un mois, fait que la production est faite, les carnets de commandes sont complétés. Fait qu'ensuite de ça, qu'est-ce que l'entreprise va faire? Va-t-il éponger les coûts? Fait que ça se peut, tu sais, qu'elle éponge les coûts. La majorité de nos membres dans des sondages qu'on leur demandait ce qu'ils faisaient des tarifs des États-Unis, c'est qu'ils épongent les coûts. Une partie qui est refilée à la clientèle. Mais après ça, c'est jusqu'à quel point le marché américain va être prêt à payer le surcoût, qu'il va pas pouvoir aller chercher un fournisseur ailleurs, que ce soit en Asie ou que ce soit même aux États-Unis. Puis là, ben, t'as un effet cascade. C'est-à-dire que t'as l'entreprise qui prend des coûts supplémentaires ou qui perd une bonne partie de ses d'un marché. Cette entreprise-là a des fournisseurs. Ces fournisseurs-là font affaire avec elle. Fait que ça peut faire un effet de cascade sur l'économie qu'on veut pas puis qu'on n'a pas de besoin, là.
Cette semaine, on se disait entre nous que effectivement l'incertitude peut faire en sorte que ça fasse baisser le carnet de commandes. Mais ce que je comprends, c'est que là, les commandes ont déjà été passées. On a fait la production, on est en train de la faire, puis ça se peut qu'on reste pogné avec notre production, c'est ce que je comprends.
Oui, tu sais, derrière le pourcentage des tarifs, c'est des investissements qu'il n'y aura pas, c'est des emplois qui vont être pas créés, c'est des entreprises qui sont à risque. Puis l'incertitude, bon, peut-être qu'elle va pas avoir un impact direct sur le carnet de commandes. Maintenant, c'est certain que ça va être présent dans les décisions d'investissement. Est-ce que j'agrandis mon entreprise? Est-ce que j'automatise pour pouvoir produire plus quand j'ai une partie de mon marché qui pourrait tomber? Donc, cette incertitude-là, ça fait plusieurs années que j'étais à la FCEI. Là, je suis arrivé en 2009 à la FCEI. Je suis quitté pour la PCHQ de 2016 à 2019, puis je suis revenu. Puis, tu sais, l'incertitude n'avait jamais été dans le haut des préoccupations des petites et moyennes entreprises. Maintenant, c'est rendu dans nos sondages récurrents comme figurant comme une préoccupation majeure des dirigeants d'entreprise. Puis l'autre chose que je voyais pas non plus, ben c'était que la demande intérieure puis les coûts faisaient énormément de pression sur les entreprises. Fait que là, disons que c'est pas un cocktail qui est comestible pour personne.
Mais lorsque Donald Trump est arrivé avec ces tarifs-là, là, lorsque il est arrivé au début du mandat, les gouvernements du Québec, du Canada disaient on va faire en sorte d'aider nos entreprises, on va éliminer les barrières tarifaires entre les provinces. Est-ce qu'il y a eu, on va alléger le fardeau aussi des entrepreneurs québécois? Est-ce qu'on a eu de l'évolution à ce niveau-là?
Il y en a eu, mais pas assez. Assez, parce que vous le dites bien, là, quand Trump est arrivé avec ses tarifs, c'est pas hier qu'il a commencé avec ses tarifs. Là.
Non, c'est au début du mandat.
Ben, exact. Puis c'est sa façon qu'il voit les choses puis qu'il voit l'économie. Puis il va pas partir demain. Là. T'sais, théoriquement, il resterait 2 ans, mais encore là, s'il va-tu vouloir partir facilement, je suis pas certain. Donc, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là que de l'autre bord de la frontière, on a 66 % des échanges, il va en avoir des tarifs. Quand il ne va pas en avoir, qu'il va se faire rebuter, bien, il va en remettre d'autres.
Puis il va trouver des twists aussi parce que là, il y a des tarifs qui prenaient fin à minuit aujourd'hui, mais il a trouvé une façon là, de reconduire des nouveaux régimes de droits de douane de 10 à 12,5 %. Au Canada, c'est plus 10 %. Puis en fait, on mise sur... Jameson Greer, qui est le représentant américain au commerce, il a justifié ces tarifs-là en invoquant l'incapacité de ces pays à adopter et à faire respecter efficacement une interdiction visant l'importation de biens produits grâce au travail forcé. Mais on a trouvé une façon là, d'aller ajouter, de reconduire ces tarifs-là.
Puis s'il est rebuté en cours, ben, il va retrouver une nouvelle façon. Ça c'est où on se retrouve maintenant.
Mais est-ce que c'est une bonne stratégie? Ouais, excusez-moi, allez-y.
Ben, les gouvernements, ils doivent réagir comment devant ça? Là? Ils doivent-tu voir comment suppléer à la demande qui est moins là avec des programmes d'aide, puis des subventions, puis etc.? Ou créer le meilleur environnement d'affaires possible, ce qui va faire en sorte que le 15 % ou le 10 % ou le 50 % ben, il représentera pas gros dans la balance. Nous, on pense que c'est la deuxième option qu'on devrait prendre.
Là, en ce moment, tous les premiers ministres sont à une assemblée, sont tous ensemble, et la stratégie qu'ils semblent adopter avec cette nouvelle menace-là de 50 %, c'est on veut jouer l'horloge jusqu'au mi-mandat. Est-ce que c'est une bonne stratégie?
Bien, c'est oui, il faut jouer l'horloge. Oui, il faut essayer d'aller chercher le maximum dans la CEM, renégocier puis maintenir cet accord-là parce qu'il y a 85 % des échanges qui ne sont pas tarifés. Puis nos économies sont imbriquées, puis ça ferait autant mal aux États-Unis. Bien, ça ferait pas autant mal parce que c'est une plus grosse économie, mais ça ferait mal aussi aux États-Unis et au Canada. Maintenant, cet électrochoc-là, il devrait amener les gouvernements à aller plus loin. Là. Puis là, au Québec, on est encore l'endroit de 20 États américains, selon une étude qu'on a faite, puis toutes les provinces, qui a la pire fiscalité pour la petite entreprise.
C'est ça.
La pire.
C'est tellement compliqué. Puis pourquoi on n'essaie pas d'alléger justement ce fardeau-là qui est épouvantable?
Ben, il n'y a pas juste ça. On est les seuls qui ont une taxe carbone.
En plus.
Ouais. On a des règles particulières qui ne s'appliquent pas à d'autres provinces. La protection du consommateur. T'sais, il faut qu'ils impriment des papiers pour dire qu'ils ne sont pas capables de réparer les produits. Je ne sais pas le détaillant qui peut faire ça. Là. C'est le manufacturier. Ouais. On a des règles particulières en santé et sécurité au travail. On a même certains décrets de convention collective régionalisés. Donc, vous êtes un entrepreneur. Comment voulez-vous être capable de faire face à ça? Oui, vous avez la valeur du dollar qui est plus basse au Québec et au Canada. C'est le temps là, de créer le meilleur environnement d'affaires. C'est le temps d'aider les entreprises à investir en productivité parce qu'on a un retard de productivité. Puis c'est là qu'on va être capable de tirer notre épingle du jeu puis d'avoir un rapport de force dans les négociations puis d'être capable de laisser nos entreprises croître puis bénéficier aux régions puis à notre avenir commun pour tous. Là.
Moi, j'ai une question aussi, M. Vincent. Je vais vous parler de ça parce que j'ai vu ça passer cette semaine sur les réseaux sociaux. Tu sais, au Québec, on paye tous très cher d'impôts. Tout le monde, là, tous les citoyens qui travaillent et tous les entrepreneurs payent leurs impôts et tout ça. Et j'ai vu une entreprise qui se spécialise dans la recherche de subventions pour les entrepreneurs. Fait que dans le fond, on dit, il y a de l'argent pour vous, allez la chercher. C'est les impôts de tout le monde. Pourquoi, au lieu de développer 1001 programmes de subventions, on ne laisse pas cet argent-là directement dans les poches des entrepreneurs?
100%. Puis ça, c'est une démonstration que le système ne fonctionne pas. J'ai vu ça sur mes réseaux sociaux aussi. Il y avait une dame qui m'incitait à prendre une formation pour devenir conseiller en subvention pour que je pourrais gagner 100 000 $ parce que j'aiderais les entreprises à aller chercher des subventions. Tu sais, il y a deux problèmes là-dedans. Là. Il y a un problème, c'est-à-dire que ça amène les entreprises à faire des investissements où ils n'ont pas nécessairement besoin.
Ben exactement. On dit que le programme existe, on va aller le chercher.
Puis là, admettons, si lui n'a pas besoin d'améliorer tel aspect de son entreprise puis qu'il fait un investissement, parce que quand même, il n'y a pas d'investissement que l'entreprise va faire, mais il va chercher une aide du gouvernement, ben ça va pas la rendre plus productive, ça va pas la rendre plus intéressée à aller faire ce qu'elle doit faire. Puis l'autre problème, là, si on est capable de créer des spin-offs comme ça, c'est parce qu'il y en a trop d'argent disponible pour n'importe quel programme. Puis là, à un moment donné, les tentacules de l'État qui décident qu'est-ce que les entreprises vont faire, c'est assez, là. Je veux dire, utilisons cet argent-là, allégeons le fardeau fiscal,
ben oui.
Puis les entreprises vont bien décider de faire ce qui est bon pour elles, là. Il y a 270 000 PME au Québec, il y a une centaine de milliers d'entrepreneurs là, qui ont eu le courage de se lancer pour faire ce qu'ils aiment. Bien, ils savent bien ce qui est bon pour leur entreprise.
Oui, puis, tu sais, moi, je suis vraiment pas un pro-subvention. Là, puis moi, j'ai une petite entreprise, je développe des nouveaux projets. Puis les règles sont tellement compliquées. Si on allégeait certaines règles, ça m'aurait permis de financer moi-même par un projet, mes futurs projets. Mais sauf que je comprends les entrepreneurs qui disent « l'argent est là ». Je veux dire, on l'a payé, je vais aller chercher cet argent-là. Là.
Ben oui, exact. Mais maintenant, as-tu vraiment besoin de faire cet investissement-là à cette place-là? Est-ce que ce ne serait pas peut-être mieux de former du personnel? Est-ce que
ouais,
ce serait peut-être pas mieux d'investir dans un programme d'IA qui va t'aider à réduire ou à t'aider au niveau de ton administratif ou ton service à la clientèle? Tu sais, puis là-dedans, il y a une manne d'organisations qui vont chercher de l'argent du gouvernement pour être capable d'accompagner les entreprises, qui font même compétition à certaines entreprises qui sont des entités privées qui aident les entreprises dans des transformations ou dans l'intégration de certaines nouvelles pratiques. Fait que ça, faut le gouvernement qui paye ça aussi, là.
Ouais.
Donc oui, une sérieuse remise en cause du modèle. Puis maintenant, on n'a pas trop le temps d'attendre, là. Tu sais, puis il y a eu des bons pas. Maintenant, tes entreprises à aller plus vite quand tu leur mets plus d'obstacles sur leur chemin.
Bien, déjà, on devrait ouvrir le marché totalement au Canada pour permettre à nos entrepreneurs du Québec, du moins, partout au Canada, de faire des affaires entre nous autres dans le même pays.
On est les seuls à même pas signer l'accord pour l'alcool.
En effet.
Ils veulent pas avoir pour recevoir ton alcool chez toi. Je veux dire, la SAQ a peur de perdre son marché parce que les gens vont, ou les entreprises vont vouloir aller chercher du vin en Colombie-Britannique. C'est n'importe quoi, là. C'est complètement n'importe quoi.
Quels secteurs sont plus inquiets? On voyait dans les journaux cette semaine l'industrie du meuble, entre autres, qui semblait vraiment être en mode panique, là. Sinon, quels autres secteurs sont vraiment touchés par cette menace-là?
Ah, ben les 50%, ben c'est les secteurs qui sont ciblés. Les économistes regardent encore là, les secteurs qui machinerie, équipement électrique, c'est elle qui est le plus touchée. Plastique, produits de plastique et produits de plastique, meubles, literie, luminaire. C'est entre 4,5 et 2,5 milliards d'échanges d'achats des États-Unis de produits qui proviennent du Canada. Fait que c'est ceux-là qui sont machinerie industrielle aussi, 1,7 milliard en US. Donc, c'est ces secteurs-là qui sont les plus touchés, mais la liste est longue. Là,
oui. Il doit y avoir beaucoup d'angles morts aussi, parce qu'un secteur, ouais. Ça, c'est un effet domino, c'est que ah, c'est vrai, on a besoin de tout ça pour la matière première, pour après ça, un autre domaine, fait que ça élargit l'éventail bien raide.
C'est ça, exact. Mais non, c'était pas une bonne nouvelle. Puis pour les secteurs qui sont ralentis actuellement, beaucoup manufacturiers primaires qui sont touchés par ça, les tarifs sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. Ça, on a vu une série qui revient de fermer en Gaspésie hier, là, donc.
C'est pas évident.
Qui attendent pas trop, parce que là, l'élastique des PME est pas mal tiré au maximum, puis à un moment donné, ça va leur péter dans la face.
Puis parmi les entrepreneurs, entre autres au Québec, qui commencent à trouver ça difficile, il y en a plusieurs qui, dernièrement, ont sonné l'alarme en disant « Moi, je vais partir carrément du Québec, je vais aller faire des affaires ailleurs. » Parmi les entreprises que vous représentez, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, il y en a-tu beaucoup qui commencent à envisager le départ, là?
Bien, pas selon nos données de sondage. Là, c'est vraiment une partie minime, là, en bas du 10 % qui envisageait transférer leur production aux États-Unis. Peut-être plus les grosses entreprises, mais c'est sûr que à un moment donné, ces contraintes supplémentaires, ben, je veux dire, tu investis moins. Fait que si tu investis moins, ton entreprise devient moins compétitive, tu embauches moins. Tu vas même probablement remercier des employés s'il faut que tu réduises ton entreprise ou fermer ton entreprise, là, comme on voit. Donc,
oui, on le voit, il y a de plus en plus de fermetures, des gens qui perdent leur emploi. Ouais.
Ça prend du courage là, maintenant, puis il faut sortir du paradigme du plus d'État, plus d'État, plus d'État. Puis, ah non, on va s'enlever des revenus fiscaux parce qu'on va baisser le fardeau des entreprises. Oui, mais c'est de la croissance que tu vas aider. Là. Les entrepreneurs ne vont pas mettre ça dans leur poche, augmenter leurs dividendes. Ils vont investir dans leur entreprise. Ils vont investir dans leurs employés. Ils vont rester présents puis ils vont rester dynamiques. Là, on a vu que l'IDEDM est sorti comme 2019 puis 2025. Il y a eu 55 % des emplois au Québec qui ont été créés dans le secteur public,
oui.
Comparativement à 31 % en Ontario. Tu continues comme ça? Plus d'État, plus d'État, plus d'État? Plus de syndicats, je pense pas que c'est ça qui va nous aider à...
C'est pas l'avenir pour...
ce qui se passe aux États-Unis.
L'horizon économique du Québec et du Canada, c'est pas le plan qui va être gagnant, là. Il y en a-tu beaucoup de nouveaux entrepreneurs chaque année? J'imagine que ça...
Il y en a moins.
Il y en a moins, hein?
Il y en a moins. On a fait une étude, puis il y a une pénurie d'entrepreneurs au Canada. Au Québec, on sent moins ces données-là, sont moins présentes, mais le vent de fond est le même. Mais une donnée qui choque, c'est que c'est 55 % des dirigeants de PME au pays qui ne recommanderaient pas à quelqu'un de se lancer en affaires actuellement. Au Québec, le pourcentage est à 59 % puis là, je vais faire un sondage.
À cause du fardeau fiscal, à cause du fardeau de au niveau administratif et probablement le français, j'imagine.
Le français rentre dans
la lourdeur.
Dans le mix, là. Ouais. Surtout quand tu as une entreprise qui fonctionne à 100% français, puis que t'es assujetti à la charte de la langue, mais tu passes 25 employés, puis ben il faut que tu fasses de la paperasse pour confirmer que tu fonctionnes bien en français, tu sais, à un moment donné. Je vais vous dire ça, là, les raisons
oui.
pour lesquelles les entrepreneurs se lanceraient pas en affaires. Parce que les coûts d'exploitation sont trop élevés, 85 %. Parce que l'économie est trop incertaine ou stressante, 78
%. Oh, quand même.
La lourdeur de la réglementation gouvernementale, 74 %. L'incertitude reliée au commerce, 66 %. Les pénuries de main-d'œuvre, 66 %. Puis les taxes et impôts trop élevés, 65 %. Puis ça, c'est des effets qui sont combinés pour les entrepreneurs qui vivent actuellement. Tu sais, j'ai eu un entrepreneur qui nous a appelé, lui, puis il serait touché par les nouvelles dispositions qui ont été annoncées, mais qu'en même temps, toute l'incertitude, je vais reprendre, toute l'incertitude avec les États-Unis a fait diminuer ses ventes aux États-Unis de 28 %. Puis en même temps, il a vu ses travailleurs étrangers temporaires réduire avec les décisions oui. du gouvernement fédéral de 30 à 10 %. Puis il n'est pas dans une région ciblée, parce qu'il ne faut pas que tu sois dans une région de recensement, métropolitaine de recensement. Fait que lui, il se retrouve avec une baisse de vente des États-Unis.
Moins d'employés. Ouais.
Ben oui, avec une diminution significative de ses employés. Fait que lui, il se retrouve en disant, ben là, qu'est-ce que je fais, là? Puis ça arrive comme en même temps, là, par-par. Ouais.
Personne dans ma barque, personne même, là. C'est un sentiment d'impuissance, ben, terrible.
Tu sais, puis c'est l'accès aux travailleurs étrangers temporaires pour... Tu sais, je parle pas de l'immigration générale, là. Les travailleurs.
Non, les programmes du gouvernement, là, pour justement amener des...
Ouais, ouais. Je suis capable de définir que... Prouver que je trouve pas d'employés, puis que je vais faire des investissements de 10 000 pour aller chercher un employé pour une période de temps. Ça, c'est quelque chose d'autre, là. Fait que nos gouvernements doivent faire mieux. Puis là, au Québec, on va avoir une campagne électorale. Fait qu'espérons que ces enjeux-là, puis que ces solutions-là qui sont simples, mais qui prennent du courage politique, soient à l'avant-scène de la campagne puis des engagements du prochain gouvernement.
Je sais que c'est un autre dossier, mais on en a parlé il y a une semaine ou deux justement concernant l'immigration. Ceux qui sont arrivés ici par les programmes ont extrêmement de difficultés à renouveler leur permis puis tout ça, mais on n'aide pas nos gens au niveau de l'immigration, là.
Pantoute. Puis on a fait une étude là qu'on n'est pas sorti cette semaine qui démontrait les intentions d'emploi des jeunes, ceux qui ont un taux de chômage plus élevé. Puis on voit que les emplois qui sont disponibles, qui sont pourvus par des travailleurs étrangers temporaires, rejoignent pas du tout ce que les jeunes recherchent. Là, c'est un peu normal. Tu n'as pas quelqu'un qui est aux études, qui va aller travailler de nuit dans un abattoir, dans une autre région.
Non, c'est ça.
Donc, il y a beaucoup de personnes qui disaient les travailleurs étrangers temporaires font de la pression sur l'emploi, puis c'est pour ça que le chômage des jeunes augmente. C'est faux. C'est cette immigration-là est nécessaire, puis a été bonne pour les régions. Puis comme vous l'avez dit, d'un côté, le fédéral est trop long pour renouveler les permis. Puis de l'autre côté, l'autre élément à ajouter, c'est que Québec réduit ses seuils par rapport à la résidence permanente. Donc, on se retrouve dans un cul-de-sac. Puis
on a aussi réglementé, François, les heures de travail des jeunes qui vont à l'école. Là, fait que ça, faut pas l'oublier
ouais.
non plus au provincial. Là. Je fais juste une parenthèse.
Oui, ça aussi. Puis, tu sais, fait que quand il y a... Nous, ce qu'on a dit sur l'immigration là, à Québec, quand ils ont planifié, on a dit si tu veux réduire l'immigration, il faut que tu l'augmentes. Là. Puis si on rentre dans un paradigme de réduction de l'immigration, ben soit. Maintenant, assurons-nous que ceux qui sont dans une entreprise actuellement, comme travailleurs étrangers temporaires, mais qu'on leur crée puis qui parlent français. Qu'on leur crée un passage accéléré à la résidence permanente. Puis ensuite de ça, on ne retournera pas du monde qui sont intégrés en région, qui veulent rester ici, juste parce que.
Je suis curieux, François. J'ai une grande question, là. Ça m'habite depuis un certain temps. Est-ce que vous avez été en mesure de sonder auprès des entreprises que vous représentez si l'annonce de réduction d'impôts pour 75 000 PME annoncée par Fréchette dans les derniers mois, ça avait un effet concret, superficiel ou c'est complètement mal reçu?
Non, ils ont été contents de ça. Puis après ça, c'est que c'est un effet cumulé. Puis on permettait, ben, ce qui est plate, c'est qu'on a attendu que l'Ontario bouge pour bouger, là. Fait que pour avoir le même taux d'impôt qu'eux autres, la première ministre a annoncé sa baisse de taux d'impôt. Maintenant, on faut aller plus loin. Puis il faut régler l'injustice fiscale unique au pays.
Ouais.
Comme quoi les plus petites entreprises du secteur des services et de la construction n'ont pas accès au taux d'impôt. Fait que là, on a encore augmenté l'écart.
Bien, c'est ça. Fait qu'en baissant d'un pour cent, finalement, là, ça change. T'sais, on comprend qu'une baisse d'impôt, c'est une baisse d'impôt, puis on les accueille tous avec les bras ouverts, mais 1%, on n'est définitivement pas allé assez loin.
Bien, on peut aller plus loin maintenant. Je préfère avoir des petits pas que pas de pas pantoute.
Ah oui, en effet, c'est sûr. Mais j'ai.
Puis de l'autre côté, ben il faut régler le fait qu'on est la seule province qui surtaxe les plus petites entreprises juste parce qu'on titre. Ouais. C'est un scandale.
Tout ça n'a pas rapport.
C'est la grande.
Ben oui, absolument.
Ben ils voient juste l'argent qui rentre dans les coffres de l'État, puis ils veulent pas bouger parce qu'ils disent que ça coûte trop cher. Ben ouais, mais tu surimposes du monde depuis tant d'années, ça a aucun sens.
En terminant, moi j'ai une question. Puis je sais peut-être que je me trompe, François-Vincent, mais j'ai l'impression qu'au Québec, on a une espèce d'amour-haine envers nos entrepreneurs. T'sais, on a l'impression que quelqu'un qui a sa propre business, il fait de l'argent, puis on n'aime pas les gens qui font de l'argent au Québec. Mais pourtant, on a une méconnaissance parce que ces gens-là travaillent fort, puis des fois, ils n'en ont pas tant que ça d'argent.
Oui, je pense que l'amour-haine, elle a changé. Je pense qu'on apprécie un peu plus les dirigeants d'entreprise qu'avant. T'sais. Ils étaient plus dépeints là, dans les années 70 comme ceux qui voulaient aller chercher juste de l'argent dans les poches des pauvres travailleurs qui étaient exploités. C'est une façon de parler.
Oui, je comprends.
Mais maintenant, je pense qu'il y a une plus grande ouverture par rapport à ça, mais vous avez tellement raison. Là. Les vrais dirigeants de PME, là, c'est la classe moyenne.
Ben oui, ils travaillent tellement fort.
Et puis l'argent qu'ils vont avoir en plus, ils vont le mettre dans leur entreprise. Puis après ça, ils vont travailler des heures de fou. Si vous calculez les heures de fou par rapport au taux horaire qu'ils ont, là, ils ont un salaire extrêmement bas.
Pas payant.
Puis après ça, ils n'ont pas de fonds de retraite. Le fonds de retraite, c'est leur entreprise. Fait que c'est normal qu'ils veulent aller chercher une certaine part pour être capable de faire une retraite normale, comme un employé qui a une prestation déterminée pour avoir. La vraie classe moyenne, là, ben, c'est les dirigeants de PME puis leurs employés. C'est ça la vraie classe moyenne au Québec.
François-Vincent, on va souhaiter que du beau pour nos entrepreneurs dans le futur, que le fardeau fiscal finisse par être moins lourd, qu'on décide de leur donner de l'air. Je pense que ça va être ça la meilleure solution. François-Vincent de la Fédération de l'entreprise indépendante Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, merci beaucoup, puis bon week-end.
Merci, bye-bye.
Salut,
merci.
Bye. C'était, je l'ai dit, François-Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Tu sais, là, le fait qu'on ne soit pas capable qu'on ait des barrières, des tarifs dans le même pays entre les provinces, c'est totalement débile, cette affaire-là.
Ils sont
dans le même pays, là.
Ouais, on en a enlevé quelques-unes, là. Maintenant, quelques-unes, on peut transiger des chevaux sans payer de taxes.
C'est vrai! Quelle bonne nouvelle!
Pas
je vais aller festoyer ça pendant la pause.
Let's go. Morin.
T'as quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.